un nouvel ordre du monde s'installa. Nora estimait avoir accompli son devoir à l'égard de la lignée, deux enfants, elle n'avait pas chômé, et à l'égard de Tristan. Inutile désormais de lui consacrer plus d'attention, ni à elle, ni à Laetitia. Pourquoi se serait-elle donné cette peine? L'aînée ne quittait pas la cadette des yeux. C'était encore les vacances d'été. Tristan donnait le biberon, changeait les couches, berçait, consolait. Florent téléphona à la maîtresse de la grande section de maternelle. « Verriez-vous un inconvénient à ce que ma fille effectue sa rentrée dans 6 mois ?»«
Madame Vernier m'a parlé de votre Tristan. Elle m'a dit qu'elle avait déjà le niveau du CP. »
Les parents ne cherchèrent pas à savoir ce que cela signifiait et se réjouirent de cet accord. « Tristan, tu ne retourneras pas à l'école avant le printemps. Tu t'occuperas de la petite. » La petite dansa de joie à cette excellente nouvelle. Nora reprit le travail dès septembre. Le matin, le père et la mère partaient en voiture et laissaient leur fille à la maison. La pensée que la présence d'un adulte pût être indispensable ne les effleurait pas. Tristan était tellement raisonnable. On ne lui connaissait aucune défaillance, aucune bêtise, aucun enfantillage. « S'il y a un problème, tu me téléphones », disait maman chaque jour au moment de l'au revoir. L'aînée n'appela jamais. Quand elle avait des doutes, elle téléphonait à Tati Bobette. Elle savait que celle-ci ne pourrait pas l'aider, mais au moins elle s'adresserait à quelqu'un qui se souciait d'elle. La tante ne s'offusqua pas de la décision de sa sœur et de son beau-frère.
« Ils ont raison, tu n'as aucun besoin d'aller à l'école. »
« Faut-il coucher Laetitia sur le ventre ou sur le dos ?»«
J'en sais rien. Tu mets le bébé dans le lit, il se tortichonne dans un sens ou dans l'autre. C'est mon expérience. »
Grâce à cette réponse singulière, Laetitia échappa au curieux dictat des pédiatres d'alors, qui préconisait de coucher les bébés sur le ventre, mauvaise habitude que les enfants avaient tendance à garder toute leur vie. En dehors de ces questionnements, Tristan adorait ses tête-à-tête avec sa sœur. Il y avait toujours quelque chose de passionnant à faire ou à contempler. De se sentir observée en permanence par un regard si aimant, Laetitia devint exceptionnellement éveillée. Le soir, quand les parents rentraient, papa plaisantait.
« Alors, mes chéris, vous avez préparé à dîner ?»
Tristan riait par complaisance et par habitude pour signaler ce que la demande avait d'incongru. Maman trouvait qu'elle était une bonne mère. Le frigo et les placards regorgeaient de provisions. Nora concoctait un repas. Florent mettait le couvert. Pendant ce temps, Tristan donnait le biberon à sa sœur, l'embrassait et la couchait. «
Ne t'inquiète pas, Laetitia. Je te rejoins très vite. »
À table, on la questionnait à titre de formalité.
« Tout s'est bien passé? La petite a été sage ?»
Comme la fillette répondait toujours de manière aussi rassurante que neutre, on cessait rapidement de l'écouter. Quand elle était enfant unique, Tristan devait respecter la règle d'attendre la fin du dîner pour quitter la table. À présent, elle avait le meilleur motif pour demander à s'en aller dès qu'elle avait fini son assiette.
« Est-ce que je peux rejoindre la petite ?»
Les parents acceptaient d'autant plus volontiers qu'ils aspiraient à reprendre leur perpétuelle idylle. Non qu'ils se gênent beaucoup en présence de leur fille pour se regarder dans les yeux, mais parce qu'une tierce personne de 5 ans empêche certaines déclarations. Aucun spectacle ne réjouit tant que le sommeil de qui l'on aime. Si de surcroît le dormeur est un bébé, le bonheur se double d'un mystère. À quoi rêve-t-on quand on a 3 mois ? Tristan contemplait interminablement l'amour endormi. Elle retenait son souffle de peur de l'éveiller. Au prix d'un silence absolu, elle pouvait entendre la respiration infime. Ce son ténu lui dilatait l'âme de joie. Elle avait installé son lit un peu en hauteur, de manière à ne jamais perdre sa sœur de vue. Elle se couchait sur le côté, face à Laetitia. La veilleuse lui permettait de ne rien manquer de ce spectacle fascinant. Le plus souvent, ce qui réveillait les petites, c'était le pas des parents dans l'escalier et leur arrivée dans leur chambre. Le moins qu'on pût dire, c'est qu'ils ne témoignaient pas la même discrétion que leur aînée. Parfois, celle-ci les entendait dire « Tu ne crois pas qu'on est trop bruyant pour les filles ?
Penses-tu à leur âge, on roupie ferme ?»
Quand Laetitia ouvrait les yeux, elle n'éclatait pas en sanglots immédiats. Tristan la voyait réfléchir, comme si elle se demandait sur quel ton elle allait s'exprimer. Alors la grande sœur prenait la petite dans ses bras et lui mettait un doigt sur les lèvres.
« Chut! Si tu pleures, papa et maman vont venir. Tu veux rester seule avec moi, n'est-ce pas ?
À croire que le bébé comprenait, il renonçait à pleurer.
Tristan lui chantonnait alors à mi-voix des comptines de son invention, sur des airs sans queue ni tête.
« Papa et maman sont très gentils, mais elles préfèrent jouer ensemble. Ils n'aiment pas les jeux, tes enfants. Ils ont des drôles de jeux de grands. Ils n'ont jamais été des enfants. Nous ne serons jamais des grandes. »
L'enfant sonne fasciné, béait de joie devant ses hymnes impertinents. Parfois, elle avait un rire coquin. Si elle avait faim, elle indiquait le biberon de la main. Tristan le lui donnait avec adoration. Laetitia buvait en regardant sa sœur au fond des yeux. La fillette lui faisait faire son rôle, puis la recouchait. Il pouvait arriver que la nature du désagrément diffère. Le bébé le signalait par un glapissement caractéristique. Alors, Tristan changeait la couche, non sans avoir nettoyé les fesses rouges. Les deux sœurs finissaient par dormir de concert. Rien ne s'y étend à l'amour qu'un sommeil partagé. Dans la chambre des parents, un miracle semblable avait lieu. Florent enlaçait Nora en cuillère pour leur dormition d'époux. Pourtant, si profond fut leur contentement, il n'égalait pas celui des enfants endormis. Il s'y mêlait des platitudes, des anticipations.
« Chérie, demain, rappelle-moi de sortir les poubelles, on a oublié jeudi dernier. »
Les fillettes, elles, ne vivaient que l'instant présent. Dans la Genèse, il y eut un soir, il y eut un matin. Dans le temps de l'enfance, n'existe que maintenant. Au milieu de la nuit, au moindre gémissement, Tristan s'éveillait. Les parents n'entendaient rien comme le prouvaient les ronflements de papa. L'aîné traversait le mètre de distance qui séparait les lits et prenait la petite dans ses bras, la posant sur son cœur. Le plus souvent, le rythme cardiaque de Tristan suffisait à apaiser la Benjamine. En un somnambulisme d'amour, la fillette chuchotait à l'oreille du bébé les paroles d'avant le langage.
« La 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 la, mi mi mi. »
Le message passait.
« Tout va bien, je suis là, je veille sur toi. »
Tristan était le capitaine du bateau. Aucun naufrage ne s'annonçait. Elle recouchait le petit mousse et puis s'allongeait sur sa couche. Cap sur le matin. On y arriverait toujours assez tôt. Quand les rivages du jour apparaissaient, l'aînée se préparait à accoster. Elle préférait descendre avant les parents, histoire de rappeler qu'elle incarnait la personne responsable de la maisonnée. Son angoisse était qu'il doute d'elle. Comme elle se trompait de peur. Elle savait que cette vie parfaite durerait un an. À 5 ans, 1 an, c'est l'infini. Elle n'envisageait pas un instant l'année suivante. À table, il pouvait se produire que papa ou maman déclarent, avec le sadisme inconscient de leur âge, « L'an prochain, quand Laetitia sera à la crèche ?» ou « Lorsque Tristan entrera au CP ?» La fillette serrait les dents et attendait que ça passe. Si on ne lui donnait aucune prise, cette peur disparaissait très vite. Avec Laetitia, l'éternel retour de l'identique n'avait pas besoin d'être connu pour être vécu. Il faut avoir dépassé la prime enfance pour s'offusquer du quotidien. Les deux sœurs s'en délectaient dans les moindres détails. Tristan ne tarda pas à remarquer le succès du comique de répétition avec le bébé. Un même gag, reproduit 30 fois d'affilée, déclenchait à chaque fois une hilarité accrue. La fillette avait l'impression que le mécanisme du rire était ouvert à l'infini chez sa petite sœur. Elle ne s'arrêtait que quand elle avait le sentiment que Laetitia allait s'étrangler de rire. En partant le matin, Nora laissait le téléviseur allumé, pour que les filles ne se sentent pas seules. Elle pensait que Tristan s'installait devant le poste pendant les siestes de sa sœur. En vérité, dès le départ des parents, l'aînée éteignait la télévision. Elle la rallumait un peu avant le retour afin de les rassurer. La surveillance télévisuelle leur procurait une agréable illusion de contrôle. Couché sur le tapis du salon avec Laetitia, Tristan explorait l'univers sous la forme d'un jouet. Les mystères de la toupie les fascinaient, comme l'énigme du cheval à bascule. Il y avait aussi les créatures de volupté, telles que le lapin en peluche ou la poupée de chiffon. La grande sœur comprenait que la petite y planque les dents, tant de séduction appelait la morsure. Du haut de son âge, elle révéla quelques secrets à la Benjamine. Par exemple, le délice de mâchonner une serviette lavée peu de temps auparavant. Maman mettait souvent du linge à sécher sur des fils tendus dans la cour. Tristan portait le bébé en ce lieu magique où régnait une odeur étonnante. Si les draps étaient encore mouillés, le goût de lessive se sentait davantage. Merveille. La curiosité exigeait de pousser plus loin l'expérience de dégustation. Il fallait essayer les chaussettes, les chemises, les torchons, les gants de toilette. Par ailleurs, il valait mieux se livrer à ce jeu le matin, histoire que les traces de salive aient le temps de sécher avant l'arrivée des parents. Ce que Tristan préférait, c'était les siestes. Elle couchait le bébé, le bordait, s'allongeait sur son lit et chantait des berceuses de son invention. Voir Laetitia sombrer dans le sommeil l'hallucinait de plaisir. L'impression de contribuer au passage de sa sœur dans l'autre monde l'emplissait d'une émotion infinie. Elle restait là, à guetter le visage de l'endormie, essayant d'imaginer ce que cachaient les paupières si joliment baissées, de partager la pâmoison de la ravissante bouche entr'ouverte. Parfois, la petite bougeait ses poings fermés. Tristan imitait ses gestes dans l'espoir de la rejoindre. Il pouvait lui arriver de siester aussi. Venait alors ce moment exquis entre tous. Se réveiller ensemble, échapper de concert au charme, se sentir à la fois alourdi et amélioré, empesé d'une charge de douceur et étreindre la sœur dans le même état que soi, saisissement conjoint de l'autre et de l'identique. Un tel instant se savourait très longtemps. Descendre l'escalier avec le poids sacré dans ses bras. Nous sommes chez nous. Si un territoire appartient à qui l'occupe le plus, à qui en jouit le plus et en connaît les possibilités les plus insoupçonnées, les fillettes étaient à coup sûr chez elles. Elles possédaient la maison au double sens du terme. Cette demeure, on ne peut plus ordinaire, était possédée par la magie que les enfants y installaient. Qu'est-ce qu'habiter un lieu? C'est lui insuffler son âme. Un enfant peut s'attacher au logement le plus inepte par sa capacité à spiritualiser n'importe quoi. Si vous voulez que votre cuisine devienne un endroit légendaire, aimez-la. Persuadez-vous que les bonheurs que vous y avez vécus lui doivent leur source. D'ailleurs, c'est la vérité. Dans la salle de séjour, il y avait un jeu d'échecs. Les parents y jouaient souvent. Tristan ne connaissait pas les règles, mais elle installait régulièrement la chaise haute du bébé à côté du jeu et se mettait en face d'elle. Elle montrait les pions à Laetitia, lui permettait de les goûter pourvu qu'elle n'en abuse pas, puis les disposait au hasard sur l'échiquier. La petite sœur poussait des hurlements de rire que la grande partageait. Simuler à deux une partie d'échecs les amusait tant que lorsqu'elle surprenait les parents en train d'y jouer pour de vrai, elle devait s'empêcher de rigoler. Un soir que Tristan avait oublié de ranger les pions, Florent l'interrogea sur sa pratique des échecs. « Je fais semblant, » répondit-elle. « Veux-tu que je t'apprenne ?» Elle acquiesça. Il commença par lui expliquer longuement le meuble. « Une table d'échecs, c'est rare. C'est mon père qui l'avait acheté dans une brocante. Ça a de la valeur. Papa s'intéressait beaucoup aux échecs. C'était un excellent joueur. Il invitait des as pour le défier. On peut dire qu'il est mort à cause des échecs. Sa maison brûlait. Il n'a pas remarqué. Il jouait avec ma mère, qui était aussi concentrée que lui. Personne ne sait qui gagnait. L'incendie a tout détruit, sauf l'échiquier et les pions, qui sont ignifugés. Ignifugés? Qui résistent au feu. Grand-père t'avait appris? Un peu. Il enseignait à sa fille les règles. Elle retenait à la première écoute et manifestait une excitation profonde. Plus tard, il vit son aîné avec le bébé dans les bras. Elle lui expliquait le mouvement des pions. Florent en conçut de l'irritation et dit « Tu as fini ton numéro de petit génie ?» Tristan s'arrêta net et se raidit. Son père ne sut jamais combien cette parole pesa. Le lendemain, elle constata qu'elle voyait mal. Elle en parla à sa mère qui la conduisit chez l'oculiste. Il diagnostiqua une myopie sévère. Dès ce jour, la fillette porta des lunettes. En son for intérieur, elle associa cette infirmité à la honte qu'elle avait éprouvée quand son père lui avait adressé cette remarque acerbe.